Vous avez choisi, Josiane Savigno, de nous présenter Le siècle des nuages de Philippe Forest, paru aux éditions Gallimard, un roman qui a fait son chemin progressivement, d'ailleurs, on peut dire, s'est imposé d'une certaine mesure pendant tout l'été.
Et oui, parce que je pense que c'est un projet d'ampleur, c'est un livre que je trouve vraiment passionnant. Je le dis d'autant plus tranquillement que j'ai beaucoup aimé certains livres de Philippe Forest, comme son premier livre, L'Enfant éternel, ou Sarina Gara, mais je n'avais pas aimé le dernier livre qui s'appelait Nouvel amour, si je me souviens bien. Et là, c'est vraiment un projet dense. Au fond, c'est une sorte d'adieu au XXe siècle à travers l'histoire de l'aviation et le destin parallèle d'un homme, son père, le père de Philippe Forest, qui est né en 1921 et est mort en 1998. Et à un moment, d'ailleurs, Forest écrit « C'est comme si l'histoire de l'aviation et la sienne n'en avait été qu'une seule ». En fait, c'est un livre très bien composé qui est scandé par des dates. Alors, je ne vais pas toutes les donner parce que le livre fait 560 pages et on n'aurait plus de place pour nos autres livres. Mais je vais quand même en donner quelques-unes. Donc, la première, c'est le 17 septembre 1921. C'est la naissance de cet homme, ce qui permet à Forest de parler des grands-parents, du couple. Tout ça se passe à Mâcon. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment la province française du début du siècle. Deux familles, l'une qui a une maison de confiserie qui s'appelle Les Fiançailles, l'autre qui a une librairie, la famille de la mère. Et donc, tout ça est très, très, très bien fait. Ensuite, il y a le 17 juin 1940, c'est leur rencontre, ce qui permet à Forest de parler de l'exode, de la drôle de guerre, et au fond d'expliquer qu'il n'est pas en train de faire un roman historique. Je vais rester un petit passage parce que je trouve qu'il dit bien les choses là. L'intrigue restant pourtant plus ou moins la même, car dans un roman, les convulsions de la grande histoire servent seulement à favoriser ou à contrarier les desseins des amants, qui en sont les contemporains, mais qui passent à travers elles tout à fait insoucieux de ce que ces convulsions signifient, puisqu'ils se voient entièrement requis par une autre aventure qui seul importe des leurs à leurs yeux, qui est au fond la leur, évidemment. Donc... Ensuite, avant même le permis de conduire, qui est quand même très étonnant à l'époque, et même maintenant d'ailleurs, avant même le permis de conduire, cet homme passe son brevet de pilote. Puis, Forest est très très lucide sur cet homme. Il est ni résistant ni collabo, mais c'est pas du tout un héros. Il est plutôt vichiste, passif, si on peut dire, à un moment. Mais finalement, il part... Alors, il fait son premier vol, c'est ça, le 22 décembre 1943. Et Forest explique bien comment c'est vraiment pour lui une seconde naissance. Alors, je voudrais le dire pour les gens qui, comme moi, ne sont pas particulièrement fascinés par l'histoire de l'aviation. Moi, je ne suis pas particulièrement fascinée par cette histoire. Je n'ai pas eu de héros pilote. Mais il m'a semblé que cette manière de traverser le XXe siècle à travers cette histoire, comme le fait Forest, est extrêmement convaincante. Du coup, aussi, le père part en Amérique et il espère faire la guerre comme pilote des Alliés. Oui. Et ça ne se fait pas, mais il y a cette découverte de l'Amérique, cette découverte du racisme, de la ségrégation. Donc, c'est vraiment un roman panoramique sur ce siècle. Et puis, il y a la fin de la guerre. Et Forest écrit, et il décrit très bien ce qui se passe à Mâcon. Il écrit « Mâcon mime en miniature le drame qui se joue partout ailleurs dans le pays ». Donc là, on comprend bien cette France dévastée avant la reconstruction. Et alors, ces deux parents ont une particularité, c'est qu'ils se marient le 5 avril 1945, ce qui est le cas de beaucoup de gens, c'est-à-dire juste à la fin de la guerre, sauf que l'une est en France et l'autre est aux États-Unis. Donc, c'est un mariage un petit peu singulier. Et ils se retrouvent ensuite, et le père fait son apprentissage sur Air France et il devient commandant de bord. Et là, au fond, il a une vie assez banale, quoi. 5 enfants, peut-être plus ou moins agent secret, semble-t-il, comme l'ont été pas mal de pilotes. Et puis, en 1972... Il y a son premier 747. Et là, c'est, pour nous, ça paraît totalement banal, totalement daté presque. Et aussi, j'ai beaucoup aimé ce passage de Forest où il explique que quand l'aéroport d'Orly a été construit, bien avant Roissy, c'était devenu un lieu de visite, comme on visite un monument. Donc tout ça nous paraît très, très loin. Et en fait, c'est pas si loin. Et alors, la fin du livre, la dernière partie du livre, moi, je la trouve absolument magnifique. Par moments, j'ai pensé à Absalon de Faulkner sur certains passages. Donc, il y a un retour sur... D'abord, il y a quelques notations sur Forest lui-même, où il n'est pas très gentil avec lui, parce qu'il trouve que son père, à 50 ans, tenait mieux la route physiquement que lui. Il était svelte, etc., comme on se doit de l'être quand on est pilote, et que lui, c'est peut-être un peu amolli dans la vie. Mais il y a ce passage absolument effrayant, où finalement, cet homme... voit mourir sa petite fille, qui est la fille de Forest, sur laquelle il avait fait son premier livre, qui s'appelait L'Enfant éternel, un enfant qui est mort très jeune d'un cancer. Et puis il y a ce drame, la retraite, et comme le dit Forest, le monde qui avait été le sien, il le voyait inexorablement avalé dans le lointain. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce 20e siècle qui finit avec lui, ou cette histoire de l'aviation qui finit avec le siècle, comme vous le disiez. Et puis il y a la fin de la vie de la mère, et on se demande si la mère a vraiment vécu. Donc moi, je trouve que c'est un livre... Peut-être, il faut dire au lecteur que il faut entrer dedans parce qu'il y a un prologue et puis il y a une écriture. Forrest, c'est pas quelqu'un qui a forcément une grâce d'écriture d'emblée. Donc il faut entrer dans ce livre, mais une fois qu'on est entré, on est happé par cette histoire, happé par cette traversée du siècle. Un certain nombre d'entre nous ont quand même vécu une partie de ce siècle. Enfin, Forrest est né en 1962, donc je pense que tous les gens qui sont nés en 1962 ont un peu des souvenirs comme il en a. Et je trouve que c'est vraiment un des très bons livres qui sort cet automne et un projet quand même
audacieux
et peut-être difficile à réaliser et qu'il a bien réussi, ce qui n'était pas évident au départ.
Et qui atteint les hauteurs, si je puis me permettre. Nathalie Chrome.
Oui, c'est un des très très beaux livres de cette rentrée. C'est vrai que c'est à la fois un projet... assez simple, hein. Il le dit plusieurs fois dans le livre, que finalement il s'agit quand même essentiellement de préserver par l'écriture ce qui a été et ce qui n'est plus, de garder la trace. Et ça revient plusieurs fois dans les livres dits de façon différente, et notamment à la toute fin du livre, la dernière phrase, c'est aussi ça, hein, porter témoignage de ce qui a été et de ce qui n'est plus. Et il en fait un livre, effectivement, d'une assez grande complexité quand même, à la fois par cette écriture qui est très vite captivante, hein, je veux dire enveloppante. Effectivement, c'est pas une écriture légère, mais c'est une écriture qui a beaucoup de souffle, qui a une grande complexité pour dire beaucoup de choses, pour mettre beaucoup de subtilité. Je pense que les phrases sont longues parce qu'elles sont nuancées, parce qu'il y a beaucoup de choses dans une même phrase. Et par ailleurs, effectivement, moi, je l'ai lu comme disait Josiane Savigno, comme un grand livre sur qui vient un peu clôturer comme ça, prendre acte de la fin du XXe siècle, l'aviation étant à la fois quelque chose, un signe, quelque chose qui appartient à son histoire familiale. Il parle à un moment donné du Rosebud, comment s'appelle ce film d'Orson Welles,
Citizen Kane,
voilà, en s'interrogeant pour savoir si effectivement toute vie a comme ça un Rosebud autour de laquelle elle s'organise, ou elle se fantasme, ou elle se rêve, ou est-ce que c'est un cliché. Et effectivement, l'aviation étant aussi la métaphore de ce siècle, de ce à quoi il a pu croire, une forme de destination comme ça vers le progrès, vers le pacifisme, bon, que l'histoire est venue effectivement démentir. Donc moi je suis assez frappée aussi par la façon dont ça renouvelle le regard qu'on peut avoir sur l'œuvre de Forrest, où il y a déjà de très très belles choses, effectivement L'Enfant éternel, Sarina Gara, qui était un très très beau livre également, Le nouvel amour, moi il m'avait touchée, je trouvais que c'était une entreprise assez intéressante de la part d'un homme de livrer un livre avec ce degré d'impudeur sur l'amour physique, etc. Mais effectivement, il était peut-être un grand livre que ne l'est manifestement celui-ci.
Non, je voudrais juste lire un passage, parce que c'est vrai que l'abord de ce livre n'est pas toujours facile, mais une fois rentré, moi je trouve personnellement assez rapidement, aussi une des caractéristiques du livre, qui a été évoquée également par Josiane Savigno, c'est que il y a plein de micro-histoires à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a parfois des paragraphes qui, en eux-mêmes, ont l'ampleur, l'épaisseur d'un roman. Je vais prendre juste un au hasard lorsqu'il parle de ses parents. Il forme donc le couple le plus mal assorti qui soit et aussi le plus bourgeoisement uni, fréquentant la bonne société mâconnaise. Habitués des meilleurs restaurants de la région, allant au concert et à l'opéra, disposant de leur place réservée au premier rang du théâtre comme à l'église, il a fait l'acquisition de tout le matériel nécessaire à son art. Une turbine à dragées, une broyeuse pour le chocolat, de quoi torréfier les fèves de cacao et le café vert. Elle tient la boutique, qui l'approvisionne en sucreries de toutes sortes, et leur entreprise prospère au point que leurs produits deviennent indispensables à tous les ménages aisés du département. Particulièrement le chocolat des deux frères, qu'ils commercialisent avec succès, des tablettes sur lesquelles, en guise de réclame, ils ont fait imprimer les médaillons photographiques de leurs deux enfants, mon père, mon oncle devenu ainsi, des vedettes précoces et locales de la société de consommation. Il y a cette atmosphère qui est rendue, enfin, très justement, c'est en soi, ça peut être un roman, comme Geoffrey peut le faire dans Microfiction. Voilà, c'est Claire Dupont-Mono.
Ah oui, je suis très impressionnée, et en fait, c'est le genre de livre que vous lisez, et ça se traduit par une sorte de belle rencontre, puisque je rejoins complètement ce que vous aviez dit, Joseph Massescaron et Josiane Savigno, sur le prologue. Alors moi, c'est allé même plus loin que ça, c'est que j'ai détesté. C'est-à-dire que c'était le Philippe Forrest que j'aime beaucoup moins, c'est-à-dire celui qui, je trouve, s'écoute un peu écrire, qui a des phrases longues. Je supportais pas bien, c'est ou bien deux points, voilà, qui est effectivement que je retrouvais un peu dans Le Nouvel Amour, mais pas dans Araki, on n'en a pas parlé, mais c'est celui qui a succédé au Nouvel Amour, qui déjà était plus dans une veine un peu plus littéraire et sincère. Et puis, on avance, et là, c'est très frappant de voir que quelque chose éclot, quelque chose à ce moment-là de plus simple et de plus sincère. Alors, est-ce que c'est l'épaisseur du souvenir qui s'impose? Est-ce que c'est le livre qui est lancé? Est-ce que c'est tout simplement une forme de sincérité comme ça, qui s'impose d'elle-même? Toujours est-il que moi, les pages que j'ai lues sur la débâcle sont éblouissantes. On y lit le portrait d'une génération et d'un couple qui, mine de rien, se termine sur les phrases de Tristan et Iseut. Donc, tout est dit, quelque part. Et alors, plus on avance, ça devient une sorte d'apothéose. Moi, il y a des pages sur la vieillesse du père, le fait qu'il dilapide l'héritage et que Philippe Forest parle d'un auto-da-fé du papier monnaie. Extraordinaire réflexe que de ce monsieur qui a mis de côté, année après année, toute une fortune personnelle et qu'il décide finalement de semer aux quatre vents. Et il y a le portrait de la mère. Moi, je trouve que les pages finales sur la mère sont exceptionnelles, sur ce retour sur elle, sur le moment où elle retrouve la vue. Il se trouve qu'à un moment, elle a un problème aux yeux, elle se fait opérer, elle se réveille un matin, elle décrit finalement les retrouvailles avec la vue, donc avec l'univers familier, donc avec le monde, et c'est absolument éblouissant. Donc c'est un livre au départ comme un ami, vous savez, ça vous agace, et puis ensuite, brusquement, ça vous accompagne pour très longtemps.
Baptiste Ligier.
Oui, voilà un ouvrage qui vole très haut dans le ciel de cette rentrée littéraire. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, non, vraiment, je pense que c'est un livre de tout premier plan, en tout cas.
De haut vol.
Oui, absolument. On peut en faire beaucoup comme ça. Je pense que tout a été dit sur cette capacité vraiment à mêler l'histoire intime et l'histoire collective. C'est un projet très ambitieux, alors qu'au départ, bon, Philippe Forest nous raconte l'histoire de son père aviateur. Au départ, moi, je me dis, ouais, sans plus, enfin, je suis pas forcément concerné. Et très rapidement, on est séduit par l'écriture, notamment, il faut souligner, un emploi du participe présent absolument remarquable en permanence. Et Dieu sait qu'il est difficile d'utiliser le participe présent. Vraiment, parlons aussi vraiment de l'écriture. Il a une capacité à, par exemple, utiliser tout le vocabulaire technique de l'aviation et à l'intégrer comme une sorte de matière littéraire. Il le fait de manière absolument époustouflante. Et c'est vrai que la toute fin du livre est absolument bouleversante. Toutefois, des réserves qui n'en sont pas vraiment, je trouve qu'à l'image d'un vol, le temps pour le décollage est peut-être un petit peu long, c'est-à-dire dans la première partie, le prologue est peut-être toute la partie, enfin ma connaisse du début, moi m'ennuie peut-être un petit peu, même si je suis vraiment bluffé par la forme là encore. Mmh. Et surtout, bon, une rentrée littéraire d'un côté.
Vous évidemment... pensez qu'il ne faudrait jamais quitter Mâcon ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas originaire de cette région, en tout cas pas bien loin. Mais bon, une rentrée littéraire, c'est aussi évidemment au départ, bon, des coups de cœur critiques et aussi des coups de cœur des libraires. Il se trouve que j'ai discuté avec quelques libraires de cet ouvrage et tous ont eu à peu près cette même réflexion. C'est vrai. Que je trouve assez étrange en me disant oui, ça c'est un livre vraiment qui plaît beaucoup à la critique et qui ne plaira pas forcément à un très large public, en tout cas de notre côté. Bon, encore une fois, raison de plus de le défendre. Raison de plus de le défendre, je crois, mais c'est quelque chose qui m'a alerté, en tout cas.
Alors, comme je sais, puisque j'en ai la preuve à peu près chaque semaine, que beaucoup de libraires, justement, écoutent, et vous me font le plaisir d'écouter le jeu des preuves. Voilà, donc je suis sûr que ce livre va se trouver, évidemment, bien sûr, en bonne place et bien présenté, parce que ce sera vraiment que justice. Parce qu'il est vrai qu'une fois rentré, je dirais, pour moi, les 30-40 dernières pages, j'étais aussi rétif par rapport au sujet, bien entendu, comme chacun ici. Mais étant né, peut-être parce que je suis né au début des années 60, je me retrouve, mais... Dans tout, je veux dire, même dans l'auto-da-fé, en effet, financier du père, enfin, dans cette société provinciale. Josène Savigno.
Oui, moi, ce que je trouve très fort aussi, c'est cette manière, si j'en ai un peu parlé, cette manière de garder dans le style une certaine distance, même quand il évoque des choses extrêmement intimes, extrêmement complexes, extrêmement proches, même le deuil de sa fille dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'au début de chaque chapitre, il met des citations qui sont toujours, en général, très bienvenues. Ouais. Et je voudrais terminer sur celle de Faulkner, parce que je crois qu'elle dit vraiment quelque chose de ce livre. « Quelques vagues apothéoses d'humanité, entrevues un instant dans la lueur éclatante d'un coup de tonnerre et disparues pour toujours. »
Il faut rappeler aussi que le siècle des nuages, c'est une... Il le tire d'Apollinaire.
Ah oui, c'est ça.
Bien sûr, hein, c'est oui. puisque nous parlions d'exergue.
Il en parle à un moment.
Voilà. Ouais, mais chaque spectateur cherchait en soi l'enfant miraculeux, siècle au siècle des nuages. Hein, c'est dans Un fantôme de nuée. Et chaque lecteur, pas seulement chaque spectateur, mais chaque lecteur aussi, cherche en soi l'enfant miraculeux et essaye surtout de lui rester fidèle. Et y rester fidèle, une manière, bah, c'est de lire justement le roman de Philippe Forest, Le siècle des nuages, qui vient de paraître chez Gallimard. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Jeux d'épreuve.